va être un peu succinct parce qu'en 40 minutes, on ne peut pas résumer l'ensemble. Je vais essayer de vous présenter comment on représente le Saint-Sépulcre à l'époque médiévale. Je vais me contenter d'une première partie du Moyen-Âge, je ne vais pas m'étendre extrêmement loin dans le Moyen-Âge. Finalement, on va regarder la place qu'occupe le Saint-Sépulcre dans l'image médiévale avant le début du XIIIe siècle, c'est-à-dire avant le Concile de Latran IV. Le Concile de Latran IV va changer un peu la perception qu'on va avoir du Saint-Sépulcre, puisqu'on va changer la perception qu'on va avoir de la mort et de la résurrection du Christ. Alors, pas dans le sens profond, mais en tout cas dans l'image, on va avoir une modification qui va s'opérer. Et c'est vrai qu'avant le Concile de Latran IV, le Saint-Sépulcre va avoir une place prépondérante dans l'iconographie, que ce soit dans l'iconographie funéraire ou dans l'iconographie liturgique. Après le Concile de Latran IV, on va commencer à avoir de moins en moins de représentations de copies de Saint-Sépulcre telles qu'on peut les avoir et telles qu'on va en voir quelques exemples ce soir. Et surtout, on va voir l'iconographie de la résurrection du Christ qui change, puisqu'on va passer de l'iconographie de la résurrection antérieure, qui est autour de la visite des saintes femmes au tombeau, donc justement le Saint-Sépulcre joue un rôle central dans cette iconographie-là, à une représentation de la figuration du Christ ressuscité, donc du corps glorieux du Christ ressuscité. Et dans ce cadre-là, le Saint-Sépulcre va s'effacer derrière la figure du Christ. Alors, bien entendu, pour comprendre le modèle et l'image que va représenter le Saint-Sépulcre, il faut commencer d'abord un petit peu bas, je ne sais pas si on peut relever un petit peu.
Regardez bien, si j'allais en Terre Sainte, là, ça reste un peu
plus. Alors, si vous allez en Terre Sainte, vous ne verrez pas ça.
C'est pour ça qu'il faut regarder
la main. Il faut connaître le modèle original. Hein. L'église du Saint-Sépulcre a connu une histoire assez longue, assez douloureuse, qui est assez compliquée en soi. Puisqu'il y a eu énormément de constructions, destructions, reconstructions, tremblements de terre, incendies, prise de la ville, destruction, j'en passe et des meilleurs. Ouais, c'est pas forcément beaucoup mieux avec la première image en fait. Voilà, comme ça je pense que c'est bien. Avec la plainte de la porte au milieu de l'image, ça rend la lecture un peu plus compliquée. Alors, si on en croit Eusèbe de Césarée, les chrétiens n'ont jamais vraiment perdu le site, la communauté chrétienne de Jérusalem n'a jamais complètement perdu l'idée du site de l'ensevelissement, enfin de l'inhumation du Christ, de même que, résultat, ils ont toujours gardé en mémoire le site de la crucifixion, donc la colline du Golgotha. Si on en croit toujours Eusèbe de Césarée, Adrien, quand il reprend la ville après une énième révolte des Juifs, les Juifs ont été un peuple qui a été une sacrée épine dans le pied des empereurs romains, Adrien décide d'araser complètement la ville, de la reconstruire sous le nom de Aelia Capitolina, donc une ville qu'il va dédier à sa famille et à sa propre dynastie. Et dans sa volonté est de transformer les lieux qui pourraient être importants pour les Juifs en lieux qui vont devenir importants pour les Romains. Si on en croit Eusèbe de Césarée, Adrien aurait complètement arasé le site du tombeau du Christ, donc du rocher dans lequel le Christ aurait été enterré, de même qu'il aurait arasé la colline du Golgotha pour y construire dessus un temple dédié à Vénus. Si on en croit toujours ce cher Eusèbe, la dédicace à Vénus était une gifle envoyée dans la figure des chrétiens, parce que bien entendu, mettre un temple à Vénus, déesse de l'amour et du côté charnel des relations physiques, sur le lieu où le Christ, Dieu des chrétiens, est mort et a été enseveli et ressuscité, forcément c'était une façon de donner du fil à retordre aux chrétiens. Toujours est-il qu'à partir du moment où Constantin arrive au pouvoir et qu'avec l'édit de Milan en 313, on a un édit de tolérance envers le christianisme, on va voir commencer à pousser, à peu près comme des champignons, des églises sur les lieux saints en Palestine et à Rome. En ce qui concerne le Saint-Sépulcre, bien entendu, ça va être le haut lieu de la construction constantinienne. Donc vous avez ici la première construction constantinienne, qui est vraiment là complètement dans le type des grandes basiliques qu'on trouve à Rome, celles dont on a encore des exemples avec Saint Jean de Latran ou Saint Paul hors les murs, c'est-à-dire qu'on rentre, on est directement sur le cardo, on rentre par des grands propylées, puis on a la basilique du Martyrium, qui est une basilique à cinq vaisseaux, un atrium qui, au lieu d'être à l'avant de l'église, se retrouve à l'arrière de l'église, un atrium qui est important puisque c'est dans cet atrium qu'on va avoir la cour du Golgotha et donc le lieu dans lequel la croix du Christ aura été plantée. Et pour finir dans l'ensemble de ce complexe, qui est occidentée ici et non pas orientée, on va avoir la première rotonde du Saint-Sépulcre autour de la roche sur laquelle le Christ aurait été déposé, le corps du Christ aurait été déposé et surtout l'endroit où il aurait été enseveli. Alors, les restitutions se font sur la base de ce qu'on conserve encore aujourd'hui du Saint-Sépulcre, des descriptions de Zèbre de Césarée, des descriptions de pèlerins de cette période-là qui nous décrivent un peu le décor et l'ensemble de l'organisation du complexe. Par la suite, le Saint-Sépulcre va connaître un certain nombre d'avatars, on va en sauter quelques-uns. On arrive au XIe siècle. Au début du XIe siècle, la ville a été prise par les Fatimides et c'est le calife Alaki qui en 1009 va décider de fermer la ville à l'accès de la ville à tous les pèlerins, qui étaient quand même encore extrêmement nombreux à cette période-là, enfin déjà très nombreux à cette période-là. Et qui, pour être sûr que les pèlerins, même s'ils arrivent à rentrer à Jérusalem de façon subreptice, ne trouvent pas le Saint-Sépulcre, ils décident de détruire le Saint-Sépulcre et de l'araser jusqu'à ses fondations. Alors ça, c'est ce que nous disent les chroniques. On sait très bien que détruire un bâtiment aussi imposant que le Saint-Sépulcre, qui était quand même construit un appareil cyclopéen, c'est un peu plus compliqué qu'on veut bien le penser. Mais toujours est-il qu'une grande partie de l'église est détruite. Et on va avoir, à partir de 1046, Constantin Monomaque, donc un empereur byzantin, qui va entreprendre la restauration et la reconstruction. Et vous voyez déjà une première modification ici avec la disparition de la basilique du Martyrium, hein, la première basilique disparaît. On conserve simplement un espace de la cour dans lequel on va retrouver le Golgotha et finalement le complexe va venir se resserrer autour de la rotonde du Saint-Sépulcre qui reste l'élément phare, l'élément majeur de l'ensemble du complexe. On va le voir dans l'iconographie. Et puis vous avez la dernière version que je vous présente, qui est la version des croisés. À partir de 1099, on a donc la première croisade, les croisés arrivent à Jérusalem. L'église a été certes restaurée par Constantin Monomaque, mais elle est encore un peu ruinée, parce que bien entendu, elle n'est pas forcément entretenue, et puis on a quelques destructions volontaires qui ont été faites. Et donc on va avoir l'adjonction de ce qu'on appelle aujourd'hui la basilique des croisés, et qui se trouve à l'avant de la rotonde du Saint-Sépulcre, qui a été modifiée à plusieurs reprises. Vous voyez que le mode de couvrement a été modifié un certain nombre de fois. Le Golgotha se trouve intégré à l'intérieur de la basilique des croisés. On perd le principe de la cour à ciel ouvert qui était prévue à l'origine et voulue par Constantin justement pour montrer l'espace dans une liturgie stationnelle qui prend à peu près tous les sites de Jérusalem et des alentours, l'espace du martyr à l'extérieur et le secret de la résurrection qui se trouvait à l'intérieur du sépulcre en lui-même. Donc, le sépulcre tel qu'on le connaît aujourd'hui, le Saint-Sépulcre tel qu'on le connaît aujourd'hui, je vous le montre principalement c'est un Saint-Sépulcre qui est du 19e siècle. Il a été reconstruit, je vous ai dit, il y a eu beaucoup de reconstructions qui se sont succédées. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la présence, qu'on ne voit pas sur le plan, c'est la présence à l'intérieur de la rotonde de l'Anastasie, c'est la présence justement de l'édicule du tombeau. Ça veut dire qu'on a cette grande rotonde qui est un espace liturgique, alors qui est un espace liturgique spécifique, qui normalement n'est pas dévolu à l'Eucharistie, mais à des liturgies extraordinaires. Et à l'intérieur de cette grande rotonde, on va avoir un édicule qui lui a protégé la pierre sur laquelle le corps du Christ a été déposé. Hein, c'est cet édicule qui a été fouillé ces dernières années et qui a apporté un certain nombre de réponses qu'on pouvait se poser sur l'évolution de cet édicule-là. Donc, c'est sur la base de ces constructions constantiniennes, la restauration de Constantin Monomaque, et puis finalement un peu les modifications qui ont été faites par les croisés, qu'on va essayer de repérer ces différents éléments dans l'iconographie. Alors, très vite, dans l'iconographie chrétienne, le complexe de Jérusalem et la rotonde du Saint-Sépulcre en particulier va occuper une place primordiale. Pourquoi ? Parce que c'est le plus grand des reliquaires et c'est le reliquaire le plus improbable qui soit puisque c'est un reliquaire de l'absence. C'est un reliquaire sans relique. Et le principe même du Saint-Sépulcre, c'est de ne pas avoir de relique. Si on a une relique dans le Saint-Sépulcre, c'est là que ça devient problématique, très nettement. D'ailleurs, au départ, aujourd'hui dans le monde latin, on appelle cette rotonde-là Saint-Sépulcre, donc qui renvoie au tombeau du Christ. À l'origine, et le monde grec continue à l'appeler comme ça, on l'appelle la rotonde de l'Anastasis, donc la rotonde de la résurrection. Hein. On n'est pas sur l'inhumation au départ, on est vraiment sur l'idée de la résurrection. Donc c'est cette absence, c'est dans le secret du tombeau, dans le secret de notre édicule que la résurrection a lieu. Et c'est cette absence, ce mystère absolu de ce qui s'est passé dans le cadre de la résurrection qu'on essaye de conserver et qu'on va voir retraduit dans l'iconographie. Une des iconographies les plus anciennes qui représente la rotonde du Saint-Sépulcre, c'est la théophanie de Sainte-Pudentienne à Rome. Sainte-Pudentienne à Rome, on est sur une iconographie, sur une mosaïque, alors qui, vous le voyez sur la partie avant, est un peu plus récente, mais la mosaïque en elle-même, elle date du début du 5e siècle. On la doit au pontificat d'Innocent Ier. Elle représente une théophanie, vous avez le Christ qui est au centre, trônant, qui est entouré de saint Paul et sainte Praxède de l'autre, d'un côté, et de saint Pierre et de sainte Pudentienne de l'autre, qui représente finalement l'alliance de l'Église classique, de l'Église de Pierre et de l'Église des gentils. C'est l'ensemble de l'Ecclésia, de l'Assemblée qui va se retrouver ici. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ce qu'on voit à l'arrière-plan, puisque vous voyez que le Christ se détache sur un monticule dominé par une croix gemmée, donc une croix orfévrée, qui représente la croix glorieuse, c'est la croix de la résurrection, et qu'on a quand même toute une série de bâtiments qui apparaissent à l'arrière-plan. Et bien, cette série de bâtiments, c'est le complexe du Saint-Sépulcre. Si vous regardez, si on regarde dans le détail, vous avez ici les propylées, là, la rotonde de la basilique du martyrium, et finalement, ici, notre rotonde du Saint-Sépulcre, la rotonde de l'Anastasis. Donc, pour représenter la Jérusalem céleste, pour représenter le lieu qui est décrit dans l'Apocalypse, la Jérusalem qui est promise dans Ézéchiel, eh bien, une des premières théophanies christiques qui est représentée dans l'iconographie, avec une iconographie assez complexe, représente le Christ glorieux sous une croix triomphante du Christ ressuscité dans une Jérusalem céleste qui est en fait une reprise du modèle du martyrium et du Saint-Sépulcre. En fait, on a là la base de ce que va être le Saint-Sépulcre dans sa conception générale, c'est-à-dire que le Saint-Sépulcre, c'est l'ascenseur vers la Jérusalem céleste. C'est le lieu dans lequel on va avoir ce lien qui va être tangible, visible et quasiment matériel entre le monde terrestre dans lequel on est et le monde céleste vers lequel on aspire. Parce que le Saint-Sépulcre, c'est le lieu où la résurrection a eu lieu, s'est déroulée. Et on a même des récits de pèlerins, au 9e et encore au 12e siècle, qui nous parlent sur le chemin de leur volonté d'arriver jusqu'au sépulcre et de mourir en rentrant dans la rotonde, et de leur grande déception de revenir en Occident sans être mort dans ce Saint-Sépulcre. C'est assez amusant, mais finalement, ils sont à peu près sûrs que s'ils meurent en arrivant au Saint-Sépulcre, ils sont quasiment assurés de finir à la droite de Dieu, alors que s'ils rentrent, et ben, finalement, ils seront de nouveau soumis au péché. Et donc, on va recommencer. Donc, on a un certain nombre d'exemples. Vous avez aussi des représentations qui sont très anciennes de l'édicule du tombeau, parce que la mosaïque de Sainte-Pudentienne nous montre le complexe constantinien tel qu'il existait au 5e siècle dans son achèvement, mais finalement sur l'édicule du tombeau à l'intérieur on a peu de choses. On a quand même ce petit monument en marbre qui est conservé au musée archéologique de Narbonne, qui appartenait au trésor de la cathédrale de Narbonne, qui est une memoria sancti sepulcri, donc qui est probablement un souvenir de pèlerin, ou en tout cas quelque chose qui a été donné par un pèlerin à son retour de pèlerinage à Jérusalem, et qui représente l'édicule tel qu'il devait exister sous Constantin. Donc vous voyez, c'est un édicule qui est assez simple, on a un plan centré, entouré de colonnes, et finalement on a à l'avant une petite pièce qui permet de faire la transition entre, on va dire, le monde et le secret du tombeau qui est à l'intérieur. L'édicule tel qu'on l'a aujourd'hui, même s'il n'a plus cette forme exactement, reprend le même principe. Vous avez un espace d'entrée avant de rentrer dans le Saint des Saints lui-même, donc toujours cette idée et cet effet de la transition. À partir de ces éléments-là, eh ben on va voir l'iconographie du Saint-Sépulcre qui va commencer à se développer. Et notamment en étant au cœur de cette idée de la représentation de la résurrection. La question qu'on va se poser dès les premiers siècles de l'Église, c'est comment représenter la résurrection? Comment peut-on représenter ce que personne n'a vu, ce que personne ne connaît, et qui est le plus grand mystère? On va avoir différentes voies qui vont être choisies, et une des voies, c'est la représentation des saintes femmes au tombeau. La découverte du tombeau vide, qui justifie ce reliquaire de l'absence magnifique et monumental qu'on a construit à Jérusalem, la découverte des linges qui ont été laissés, le récit de l'ange qui annonce aux femmes et qui donc les envoie premières en mission sur la révélation, eh bien le Saint-Sépulcre va se retrouver au centre, va se retrouver au cœur de cette représentation-là. On a ici un volet central de triptyque en ivoire qui est daté du début du 5e siècle et conservé à Munich. Et vous voyez qu'on a là une représentation du Saint-Sépulcre. Alors, vous me direz, ça ressemble ni à ce qu'on a vu sur Saint-Pudentiel, ni à ce qu'on a vu avec Narbonne. On est sur une interprétation d'un monument de type funéraire. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque médiévale, quand on parle de copie et de représentation, ça n'a pas du tout la même valeur et la même notion qu'on y apporte aujourd'hui. Aujourd'hui, si je vous parle d'une copie, vous allez tout de suite penser à une copie conforme, à une reproduction servile d'un modèle original qui a plus de valeur que la copie qu'on va en faire à multiples reprises. La copie médiévale, elle est plus dans l'idée que dans la forme. Et ici, on reprend le modèle d'un élément funéraire, donc de plan centré pour la partie basse, et la partie supérieure où vous avez ce haut tambour à colonne et finalement la coupole. Et ça nous pose question sur le fait de savoir, par exemple, quelle était effectivement la réalité de la mémoria de Narbonne. Est-ce que la mémoria de Narbonne est vraiment totalement fidèle? Ou est-ce qu'au contraire, on a des variations qui vont apparaître dans les différentes iconographies? Et cette variation est une variation qui va durer dans le temps. Si elle ne ressemble pas à la Memoria Sancti Sepulchri, elle ressemble quand même à l'édicule du tombeau tel que vous le voyez aujourd'hui. Donc vous avez aujourd'hui dans l'édicule du tombeau une partie en abside, en arc de cercle, qui est dominée par une structure de ce type-là, qui ouvre et qui apporte la lumière à l'intérieur. Donc vous voyez le lien qui s'opère dans l'iconographie, on a une iconographie qui naît et qui finalement va influencer les reconstructions qui vont avoir lieu par la suite. Toujours, alors ça c'est juste pour vous montrer aussi l'importance de Jérusalem, je vous disais que la Jérusalem et en particulier le Saint-Sépulcre, c'est un ascenseur entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, c'est ce qu'on appelle le nombril du monde, l'umbilicus mundi. C'est ce qu'on retrouve très bien sur cette mosaïque de pavement qui est à Madaba, en Transjordanie. Et en fait, on a une grande mosaïque qui représente la Méditerranée. C'est une mosaïque qui montre les routes commerciales, dans une église certes, mais qui représente des routes commerciales. Et le centre de la carte, c'est Jérusalem. Alors on sait que c'est Jérusalem parce que c'est marqué à côté. Donc ça facilite les choses pour l'identification. Et une fois qu'on sait ça, eh bien on s'aperçoit, on va commencer à s'amuser. On va commencer à essayer de chercher des bâtiments qu'on connaît. Et finalement, le seul bâtiment qui ressort et qui permet d'identifier Jérusalem, eh bien, comme de par hasard, c'est notre Saint-Sépulcre, puisque vous avez ici le cardo, les propylées, le toit en bâtière de la basilique du Martyrium, et finalement, la coupole du Saint-Sépulcre à l'arrière. Donc, le Saint-Sépulcre, l'Anastasis, devient la métonymie qui permet d'identifier Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, on parle du Saint-Sépulcre. Quand on parle du Saint-Sépulcre, on parle de Jérusalem. Et forcément, on parle à la fois de la Jérusalem terrestre et de la Jérusalem céleste. Je ne vous montrerai pas d'exemple ici, mais si vous regardez, si vous allez à Rome et que vous voyez les mosaïques, notamment les mosaïques du XIIe siècle, même les plus anciennes, mais beaucoup les mosaïques du XIIe siècle, et dans lesquelles vous avez à chaque fois les représentations en bas de l'arc triomphal, d'un côté de Bethléem et de l'autre côté de Jérusalem, vous pouvez vous amuser à regarder. À Jérusalem, dans la représentation de Jérusalem, vous avez toujours au centre un édifice à coupole. Perpétuellement. Et cette métonymie de Jérusalem, eh bien, on va la retrouver forcément sur des objets qui vont être des objets usuels pour les pèlerins. Et c'est le cas notamment des ampoules à eulogie. Alors le principe des ampoules à eulogie, c'est que ce sont des ampoules que les pèlerins remportent avec eux, dans lesquelles ils ont mis de l'huile qui a touché la relique importante, en l'occurrence forcément à Jérusalem. C'est de l'huile qui a touché la pierre du sépulcre. Ces ampoules à eulogie, on en conserve un certain nombre. Les plus anciennes datent du VIe siècle. On sait qu'il en existait auparavant. Ce sont des objets qui sont fragiles. Ils sont soit réalisés en céramique, donc forcément ça casse, soit ils sont réalisés en, elles sont réalisées en métal. Et à ce moment-là, avec le temps et la manipulation, elles ont été écrasées et elles ont disparu. Déjà, des ampoules du VIe siècle, c'est déjà quand même pas si mal que ça. Celles-ci, elles sont conservées à Monza, on en a environ 16, qui sont conservées entre Monza et Bobbio, sur lesquelles on retrouve à chaque fois, ici et là, une image de l'édicule du sépulcre. C'est-à-dire qu'on représente, alors c'est le principe des ampoules à eulogie, hein, il faut qu'on identifie sans avoir besoin de mettre une étiquette, quelle est l'huile, quelle relique l'huile a touché, l'huile ou l'eau d'ailleurs, mais quelle relique importante est liée à cette ampoule-là. Donc forcément ici, c'est le Saint-Sépulcre. Et vous avez une selle à chaque fois sur chacune des deux ampoules que je vous montre, parmi les 16 qu'on connaît, la représentation de la visite des saintes femmes au tombeau. Vous avez toujours la figure de l'ange ici qui accueille avec la main parlante. Hein. La main parlante, dans l'iconographie médiévale, c'est celle avec les trois doigts levés comme ça. Ça veut dire je parle. Et les saintes femmes qui sont de l'autre côté, qui sont elles avec la main tendue sur la poitrine, paume ouverte, qui ça le geste de l'accueil, de l'acceptation et de l'écoute. Donc vous voyez que l'iconographie, la première image du Saint-Sépulcre, elle se diffuse à partir de récits de pèlerinage et puis elle se diffuse au fur et à mesure à travers des petits objets, alors pas que petits parce qu'on est d'accord que la mosaïque de Sainte-Pulgentienne c'est pas exactement petit, mais avec des petits objets de ce type-là qui permettent de diffuser une iconographie, une image. Au passage, vous voyez que l'iconographie qui est développée sur ces ampoules-là est plus proche de Narbonne que de la plaque d'ivoire de Munich que je vous ai montrée. Plaque d'ivoire de Munich qui est vraiment beaucoup plus dans un style funéraire que véritablement une reproduction du Saint-Sépulcre. On représente le Saint-Sépulcre dans sa fonction funéraire. Et cette représentation du Saint-Sépulcre dans sa fonction funéraire, on va le voir dans beaucoup d'autres objets. Je vous montre juste un autre exemple qui est assez célèbre, qui est la plaque boucle de Saint-Césaire d'Arles, qui est datée du VIe siècle en ivoire, musée municipal de l'art antique. Alors vous avez toute la ceinture de cuir qui reste autour, donc vous avez ici la boucle de la ceinture et vous voyez que sur la plaque qui suit la boucle, eh bien on a une représentation des soldats endormis qui se reposent sur le Saint-Sépulcre, base carrée, avec au-dessus un petit tholos, hein, la forme tholos, la forme ronde avec des colonnes et un toit conique de ce type-là, c'est la forme funéraire par excellence dans l'iconographie romaine et qui est récupérée de là dans l'iconographie chrétienne. En fait, la plaque de Césaire, aussi bien que la plaque de Munich que je vous ai présentée auparavant, c'est un mix. C'est un peu comme si on avait des pèlerins qui étaient revenus de Jérusalem et qui avaient décrit le Saint-Sépulcre tel qu'ils l'avaient vu et l'édicule à l'intérieur à des artistes qui, eux, ne s'en sont pas rendus sur place. Ce qu'on leur a expliqué, c'est que c'est un objet que l'édicule est forcément un espace funéraire parce que c'est le lieu dans lequel le corps du Christ a reposé. Donc, il nous faut un élément d'architecture funéraire. L'architecture funéraire, hein, c'est le tholos, c'est cette partie-là, ici. Mais de l'autre côté, les pèlerins ont dit aussi, ben, c'est un espace carré dans lequel on rentre et dans lequel, à l'intérieur duquel, on va trouver la pierre sur laquelle le corps de notre Seigneur a reposé. Et donc, on ajoute en dessous un espace carré qui va être fermé. Donc, on a cette association l'une avec l'autre d'une représentation funéraire, c'est-à-dire que le Saint-Sépulcre, avant toute chose, c'est un mausolée. C'est le mausolée du Christ. Bon. Il n'y a plus le corps à l'intérieur, mais c'est le principe du mausolée du Christ. On va s'apercevoir assez rapidement que finalement, on a d'autres représentations qui vont apparaître du Saint-Sépulcre et qui, cette fois-ci, vont s'éloigner complètement du modèle original, qui ne sont pas une reproduction ni de l'anastasis, ni de l'édicule du tombeau, mais qui sont une image liturgique de ce modèle anastasis et édicule. Et notamment à partir du 9e siècle, beaucoup, on va voir apparaître ces images liturgiques dans lesquelles on voit la liturgie qui est déroulée à Pâques, qui est ce qu'on appelle le drame liturgique de Pâques, qui va donner par la suite le théâtre de Pâques, qui va sortir des églises et donner le théâtre classique, mais qui est une dramatisation dans la liturgie des textes bibliques. On a un certain nombre. Il faudrait mettre ça à la mode.
Qu'est-ce que j'ai dit là ?
Si tu veux, j'ai des textes. On va appeler ça, on va en gros essayer à travers, notamment, alors vous avez beaucoup de rites extraordinaires de ce type-là, hein, vous avez les drames de Pâques qui sont les plus importants, mais on a aussi les drames de la nativité. En gros, on va revivre, rejouer les étapes de la passion du Christ, et notamment les étapes principales, donc de l'arrestation du Christ, de la crucifixion, de la mise au tombeau et de la visite des saintes femmes au tombeau, pour expliquer et donner à voir la résurrection. Ce ne sont pas ces pièces de théâtre, comme ces drames liturgiques plutôt, comme c'est dans le cadre d'une liturgie, ce n'est pas une mémoire, c'est une réactualisation. La liturgie n'est pas mémoire, la liturgie elle est dans le temps de Dieu au-delà du temps des hommes. La liturgie, elle est là pour nous créer une union entre ce qu'ont fait les premiers chrétiens et ce qu'ont fait les apôtres avec le Christ et ce que nous on fait aujourd'hui. Tout ça dans un même continuum et dans un même espace-temps. Et c'est ce qu'on va voir avec ces images-là. Par exemple, ici, vous avez les péricopes d'Henri II, vous avez un très bel ivoire carolingien au centre, les carolingiens sont très forts. Et vous voyez que ici, sur le côté, alors vous avez la scène de la crucifixion, qui est l'élément le plus important, et juste sur le côté de la figure de la résurrection, en dessous, vous avez cette grande tourisse à trois niveaux qui s'élève, et devant, vous avez la figure de l'ange, assis sur une pierre, alors elle n'est pas roulée, elle est tombée par terre. Vous devinez à l'intérieur les linges qui sont roulés et la pierre qui est vide. Et vous avez en face, devant, les trois femmes qui arrivent et qui découvrent le tombeau vide. Alors, des recherches, on a analysé beaucoup ce plat parce qu'il est... Il y a énormément d'éléments à l'intérieur. Hein. Vous devinez dans la scène, dans le registre inférieur, la résurrection des morts. Hein. Donc les hommes qui sont sauvés par la résurrection du Christ. Et on a réussi, enfin on a démontré, c'est Carol Heitz, que ces trois figures ici, les trois femmes qui approchent du tombeau, c'est en fait la représentation des moines qui sont en train de jouer le drame liturgique de Pâques. Qui sont en train de découvrir à la visitation sépulcri du dimanche matin, qui sont en train de découvrir le tombeau vide. Vous le voyez très bien à l'intérieur des péricopes, parce que là on est sur le folio de gauche, on est sur l'intérieur du manuscrit dont je viens de vous montrer la reliure. À l'extérieur, vous aviez les trois femmes qui approchaient et c'est tout. Mais ici, on voit très bien qu'on est dans un espace liturgique puisque vous retrouvez la même structure avec le même principe de l'ange qui est assis sur une pierre, des linges qui sont à l'intérieur et vous voyez les femmes qui arrivent avec un encensoir. La présence de l'encensoir nous témoigne ici d'une pièce liturgique, d'un espace à l'intérieur de l'église qui est transformé en Saint-Sépulcre, qui a été transformé en Saint-Sépulcre au Vendredi Saint, justement, pour y déposer l'hostie, c'est ce qu'on appelle la déposition, et qui, au dimanche matin, avant la messe de Pâques, eh bien, va être découvert, entre guillemets, par trois membres de la communauté vides, et qui arrivent, on le sait notamment par un certain nombre de textes qui nous décrivent le drame liturgique, en chantant et en balançant l'encensoir. Les femmes venaient, selon l'évangile, pour s'occuper du corps du Christ dont on n'avait pas pu s'occuper le vendredi puisqu'on rentrait dans le Shabbat et que donc il n'était pas possible de s'occuper du corps. Et elles reviennent le dimanche matin, après Shabbat, pour pouvoir donner les derniers soins au corps. Elles arrivent donc avec des onguents, avec des parfums. Là, elles arrivent avec un encensoir. Donc on est bien dans le contexte liturgique et dans la représentation liturgique. Quand on met ça en parallèle avec le drame liturgique, on s'aperçoit bien que dans ces drames liturgiques, on a vraiment quelque chose de très bien défini dans la représentation et finalement dans des indications scéniques, si vous voulez, de la façon dont les représentants de la communauté qui jouent les saintes femmes vont circuler à l'intérieur de l'église jusqu'à un espace désigné pour cette liturgie comme étant le lieu du tombeau, avant de revenir vers l'assemblée pour annoncer la résurrection. Et c'est cette image-là qu'on voit développer à partir de l'époque carolingienne, puisque c'est à partir de l'époque carolingienne qu'on va commencer à voir se développer les drames liturgiques, sous plusieurs formes. Là, vous l'avez dans le péricope d'Henri II. Ici, vous l'avez dans le sacramentaire de Drogon, donc simplement dans une initiale. Et vous voyez, vous retrouvez la forme du Saint-Sépulcre, l'ange et les femmes qui arrivent avec leur petit encensoir. Et ça va être la même chose dans le bénédictionnaire de Saint-Etelwold ou dans le sacramentaire de Séon. Toujours avec une architecture. Ce qui est intéressant, c'est que par contraste, vous voyez toujours ici avec ce très beau plat de reliure de Saint-Gall, toujours par contraste, les scènes, je ne vous ai pas mis d'image avant, mais les scènes, quand on en a, parce que généralement on insiste sur la scène de la résurrection et de la visite des saintes femmes au tombeau, mais quand on a des scènes de la mise au tombeau du Christ, la mise au tombeau du Christ se fait simplement dans un sarcophage et pas d'architecture. L'architecture n'apparaît dans l'iconographie que pour représenter la résurrection. Et elle apparaît sous la forme d'un plan centré en tourisme, ou simplement d'un plan centré type funéraire, comme vous l'avez ici, que pour représenter la résurrection. Et avec des figures féminines qui arrivent en encensoir romain, montrant bien la découverte dans un cadre liturgique. Alors, le monde carolingien va même encore un peu plus loin, puisque vous avez ici un très bel ivoire qui est conservé au Bargello à Florence, et dans lequel, 10e siècle, vous voyez finalement que le tombeau du Christ, il est représenté ici, on retrouve la forme en tourisme, en tour, hein, qui s'étage les unes sur les autres. Vous avez la figure de l'ange, les saintes femmes qui ont bien leur encensoir, les soldats qui sont endormis. Et finalement, à l'arrière de notre tourisme qui sert de Saint-Sépulcre, tout un complexe ecclésial. Tout un complexe ecclésial avec un transept, une nef et finalement une abside orientale, que l'on devine à l'arrière avec la seconde touriste qui apparaît derrière, ici, et puis qui est derrière, mais qui nous montre bien qu'on a un espace, généralement un espace élevé, qui va se trouver dans la partie occidentale de l'église et qui va être dévolu à ce type de liturgie extraordinaire. Toujours dans la partie occidentale. Pourquoi ? Parce que l'anastasis est à l'ouest de la basilique du Martyrium. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un axe occidenté. Alors, ça c'est dans les images, on pourrait multiplier, il y en a beaucoup d'autres. On pourrait même remonter, continuer à remonter un petit peu, à avancer un petit peu dans le temps. Ce type d'images, pour montrer la résurrection, elles vont commencer à disparaître au XIIIe siècle. Alors, ça ne disparaît pas du jour au lendemain en se disant, en se levant un matin, on va se dire, hop, on arrête. Non, c'est quelque chose qui va se faire de façon un peu sporadique, qui va commencer et qui finalement appartient aussi à une réflexion qui commence à partir du XIe et du XIIe siècle autour du dogme de la transsubstantiation. À partir du moment où on commence à se poser la question de la présence réelle, à savoir si l'Eucharistie est véritablement transsubstantiée ou si ce n'est simplement qu'une mémoria de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, on va avoir, alors c'est une dispute qui dure un peu plus d'un siècle et sur lequel il y a beaucoup de discussions, de disputes, parfois assez violentes, uniquement verbales, mais parfois assez violentes entre les différents partis. Et quand on arrive au XIIIe siècle, au Concile de Latran IV, dans lequel on met fin au débat avec la transsubstantiation, ça veut dire qu'on insiste sur le corps souffrant du Christ et donc sur le corps aussi glorieux du Christ. Et donc, exit la représentation du tombeau vide, petit à petit, et au contraire, on va insister sur la figuration du corps du Christ qui jaillit du tombeau, avec ses stigmates, avec ses blessures. C'est aussi à la suite de ça qu'on va avoir disparition de ça et multiplication des miracles eucharistiques. C'est assez lié. Ça, c'est pour les images, mais on a aussi les architectures. Les architectures, tiens, j'en ai une qui s'est mise là où il ne faut pas, mais c'est pas grave. Les architectures aussi, on a des copies du Saint-Sépulcre. Non seulement le Saint-Sépulcre est présent dans les images, mais forcément, le Saint-Sépulcre a un tel impact sur les visiteurs, un tel impact sur les pèlerins, sur toute personne qui y arrive. Hein, tous les récits sont dithyrambiques quand ils arrivent au Saint-Sépulcre, non seulement sur la beauté du bâtiment, mais sur l'émotion qui les étreint quand ils rentrent à l'intérieur. Forcément, vous imaginez bien que ça ne va pas rester lettre morte. On va avoir un certain nombre de représentations d'édifices qui vont copier ou qui vont s'inspirer du Saint-Sépulcre. Beaucoup d'édifices qui vont être dédiés au Saint-Sépulcre, à la Sainte-Croix, au martyrium, et qui vont se revendiquer copie du Saint-Sépulcre. Alors, je vous l'ai dit, copie au Moyen-Âge, ça ne veut pas dire la même chose qu'aujourd'hui. On a des fameux Saint-Sépulcres, notamment un à Cambrai, qui se veut être la copie absolument parfaite, nous dit la chronique du Saint-Sépulcre, et insiste bien que ce soit sur la rotonde de Constantin de Jérusalem, et on est sur un plan basilical à trois vaisseaux. Donc, c'est quand même assez éloigné. Donc c'est l'idée. Ici, exactement comme dans l'iconographie, on va aussi avoir des fonctions funéraires, parce que le Saint-Sépulcre, c'est un mausolée. C'est un mausolée qui ouvre vers la vie éternelle et vers la résurrection, et on va aussi avoir des fonctions plus liturgiques. On commence avec la fonction funéraire, c'est celle qui est la plus classique, et notamment avec une des plus anciennes qu'on ait conservées. C'est toujours un peu le problème en histoire de l'art, on travaille avec ce qu'on a conservé, et pas forcément avec tout le matériel auquel on voudrait avoir accès. Ici, c'est la Michalskirche de Fulda. On est dans une grande abbaye, très grande abbaye, puissante à l'époque carolingienne, notamment qui a été l'abbaye de Rabanmore. Et on a l'abbé Égile, nous dit une chronique de l'époque, l'abbé Égile qui a commandé au moine Rachoff la construction d'une petite église dédiée à Saint-Michel, petite église de plan centré qui doit servir de lieu de sépulture aux abbés de Fulda. Petite église de plan centré, avec un espace central sous coupole, avec une circulation annulaire, et surtout avec un beau poème de dédicace en latin. Je vous passe l'ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est « Cuius hic tumulus nostra sepulcra juvat », c'est que son tombeau réjouit nos tombeaux, c'est-à-dire que nos tombeaux se réjouissent à grâce aux siens. Ça veut dire que ceux qui sont enterrés ici sont promis à la vie éternelle, grâce au sépulcre et grâce au tombeau du Christ, d'où le lien qui est fait avec la vie, enfin avec le sépulcre du Christ. En plus, à l'origine, alors aujourd'hui vous voyez que l'église est totalement dévoyée par rapport à sa fonction originelle, vous avez un autel liturgique, c'est une hérésie, mais à la place de l'autel, à l'origine, vous aviez ce qu'on appelait un tumulus, un tugurium, c'est-à-dire une petite tour, une construction de plan centré, circulaire, assez haute, dans lequel vous aviez, oh, étonnement, des reliques provenant de Jérusalem, et des reliques du sépulcre, bien entendu. Donc, ce n'était pas un lieu dans lequel on faisait une liturgie, et notamment une liturgie eucharistique, mais en revanche, au niveau de l'inhumation pour les abbés, qui était inhumé ici, on était sur une liturgie qui faisait perpétuellement référence à l'inhumation du Christ et donc à la résurrection. Et juste pour vous montrer, l'inhumation se faisait dans la crypte. Vous voyez que vous avez un grand pilier central ici et des espaces autour, sous l'espace annulaire qui permettait de recevoir les inhumations. Alors, des modèles funéraires, des mausolées qui finalement reprennent l'idée du Saint-Sépulcre, on va dire que c'est classique, parce que si Constantin et ses architectes ont choisi un plan circulaire pour le Saint-Sépulcre, c'est bien parce que c'est la forme du mausolée impérial. Hein, les empereurs se font enterrer dans des mausolées qui sont de plan circulaire. Donc forcément, le roi des rois, c'est la saison, le roi des rois doit avoir son propre mausolée circulaire. Mais vous avez aussi des fonctions qui vont être des fonctions probablement plus liturgiques. Alors on a un cas assez intéressant avec la collégiale Saint-Étienne de Neuvy-Saint-Sépulcre. Vous notez d'ailleurs au passage que la ville a de façon totalement fortuite pris le nom de Saint-Sépulcre à cause de la construction qu'on va voir, qui est une fondation du milieu du XIe siècle, début du XIIe siècle, que l'on doit probablement à un seigneur local, Eudes de Déols, on le sait, a fait au milieu du XIe siècle un pèlerinage à Jérusalem, qui en est rentré absolument fasciné avec des reliques, les reliques étant de l'huile dans une ampoule à eulogie et probablement un fragment de pierre du sépulcre. Il y en a qui circulent énormément en Europe à cette époque-là. On est avant la première croisade, donc ce qu'a vu de Déols, c'est un Saint-Sépulcre assez ruiné, qui est en reconstruction par Constantin Monomaque, mais qui n'est pas encore complètement construit. Et il va, à son retour, probablement, alors là on reste dans l'hypothèse, parce que malheureusement, il nous manque un certain nombre de sources pour vraiment pouvoir faire les liens complets, mais c'est à ce moment-là qu'on va avoir la construction à Neuvy de cette immense rotonde très importante, qui va être reliée à une basilique, à un complexe, enfin en tout cas à une forme basilicale, à trois vaisseaux, La rotonde se trouvant à l'ouest de la partie basilicale et à l'est, on a un grand chevet plat. Donc une organisation rotonde, basilique, exactement dans la même organisation que celle qu'on va trouver, celle qu'on avait en tout cas à l'origine au Saint-Sépulcre. Et probablement la version ruinée vue par notre pèlerin au moment où il est arrivé à Jérusalem. Alors ce qui est intéressant quand même ici, c'est que vous voyez, il y a un petit problème. Parce que ici, vous avez quand même un gros montant qui appartient au mur de la rotonde et qui vient se mettre exactement dans l'accès vers la basilique. Donc l'accès, en fait, la jonction entre la partie basilicale et la partie rotonde n'est pas absolument parfaitement définie. Hein, on le voit très bien ici, je vous montre la photo aérienne, hein, on voit bien que les deux sont collés l'une à l'autre, et ici vous voyez l'accès où on est finalement à chaque fois un petit peu de guingois sur l'ensemble. Alors ça pose la question de savoir est-ce qu'il existait une basilique avant et que en rentrant Eudes de Deols a décidé de faire construire une rotonde associée et que résultat on a associé les deux comme on pouvait, par rapport au site qu'on avait, la question reste totalement ouverte, on n'a pas complètement de réponse. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le Saint-Sépulcre qu'a vu Eudes de Deols, c'est celui-ci. En tout cas, une partie de celui-ci, puisque ici, vous avez la reconstruction, le plan de la reconstruction, des éléments qui ont été reconstruits par Constantin Monomaque. Donc on retrouve notre grande rotonde, avec l'espace central, l'édicule qui est au centre, l'espace ici qui commence à se fermer, et puis finalement un tout petit élément ici qui correspond au calvaire et à la chapelle du Golgotha, qui va se trouver à l'est, à l'emplacement de ce qui aurait dû être la grande basilique du Martyrium. Et donc on retrouve un peu cette utilisation finalement des deux espaces qui vont être mis ensemble. Là encore, aujourd'hui, on a enlevé l'hérésie. Au 19e, on a connu une hérésie, aujourd'hui on a enlevé l'hérésie. Mais au 19e, on a connu une hérésie puisqu'on a un prêtre, je suis désolée, paroissial, qui a modifié la rotonde en y installant un autel, ce qui est une hérésie. Et qui, en avant en installant l'autel, a détruit, non, encore une fois, un tugurium, un tumulus qui se trouvait au centre, qui datait du XIIIe siècle, et dont on avait quelques informations, sur lesquelles on avait quand même un certain nombre d'informations, de descriptions, et notamment qu'on savait qu'il conservait une goutte du sang du Christ. Et on l'a perdu, en fait. Ah, là, c'est super propre, hein. Et on a une inscription qui se trouvait au niveau de l'ouverture et qui nous indiquait que ici était conservée une goutte de sang du Christ, mais surtout des éléments du calvaire et du sépulcre du Christ. Là encore, il faut imaginer, donc au centre, vous aviez un édicule de plan centré, circulaire, qui était en hauteur, qui se trouvait au cœur de la rotonde. La rotonde n'est absolument pas prévue pour être un lieu de liturgie eucharistique. Ça, c'est la basilique Saint-Étienne qui était juste à côté. Ici, on était probablement sur un lieu qui était un lieu dédié à certaines liturgies extraordinaires et surtout avec Novi Saint-Sépulcre au pèlerinage. Parce que, ayant ramené des éléments, des reliques de Jérusalem, des reliques de la pierre, alors les reliques du Saint-Sang qui arrivent plus tard, qui arrivent simplement qu'au XIIIe siècle, mais des reliques du calvaire, des reliques de la pierre, du sépulcre, etc., Novi devient un grand centre de pèlerinage pour toute la région. On vient en pèlerinage ici, à la rotonde, parce que, nous disent les chroniques, en venant faire le pèlerinage à Novi, c'est comme faire le pèlerinage à Jérusalem. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas aller à Jérusalem, le voyage à Jérusalem est long et dangereux. Tout le monde ne peut pas se permettre de partir pendant 3 ans. Et donc, ceux qui ne peuvent pas partir pendant 3 ans, eh bien, peuvent faire le pèlerinage jusqu'à Novi, et vous avez un certain nombre d'exemples qui sont à peu près similaires. Faire un pèlerinage à Novi, c'est comme faire un pèlerinage à Jérusalem. Parce que la préciosité, la sanctification du lieu Saint-Sépulcre, elle se transfère. Et elle se transfère dans ces lieux qui limitent et qui se mettent sous sa protection. Ça va être le cas ici, notamment, où une partie du pèlerinage va être directement placée sous l'autorité de Jérusalem. On l'a dans d'autres cas, notamment à Villeneuve d'Aveyron, où on a la création d'une église aussi de plan centré, modèle Saint-Sépulcre, alors modèle assez éloigné, mais enfin bon, il se veut modèle Saint-Sépulcre, et qui va placer la gestion de l'église directement sous l'autorité de l'évêque de Jérusalem, du patriarche de Jérusalem. Alors c'est très pratique ça, parce que le patriarche de Jérusalem, il est quand même un petit peu loin. Mais il a l'avantage d'exister par rapport aux seigneurs locaux qui veulent tous récupérer une partie du gâteau. Alors pour finir, je voudrais finir avec un exemple un peu spécial, qui est cher à mon cœur, qui est le Saint-Sépulcre de Ganrod, de Saint-Cyriaque de Ganrod. On est en Saxe-Anhalt, on est dans le Saint-Empire romain germanique, dans une église qui est encore marquée par le monde carolingien, comme vous le voyez, puisque vous avez une double orientation, hein, un cœur à l'est très développé et un cœur occidental qui est aussi assez important. Je ne reviendrai pas là-dessus, ça peut faire l'objet d'une autre conférence si vous voulez, mais on a une double occidentation, une double orientation. Et au niveau de l'église, dans l'église, sur le bas-côté, vous avez la présence d'un petit édicule qui est un petit sépulcre de Christ. Alors, c'est un plan centré, oui, c'est un plan rectangulaire surtout. Rien à voir avec le sépulcre. C'est un plan rectangulaire, tout ce qu'il y a de plus basique, qui est composé de deux salles qui communiquent l'une avec l'autre, alors qui a été modifié par le temps, hein, puisque aujourd'hui on rentre par le côté, alors qu'à l'origine, avant la modification du transept, on rentrait dans l'axe. Donc on rentrait dans l'axe vers l'ouest. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est l'iconographie. Parce qu'on a une iconographie très importante sur cet édicule. On commence par la première partie. La première partie qui correspond, vous le voyez, on est sur, on va dire, la façade principale, la partie gauche, hein, donc la partie qui va se trouver à l'est, sur notre façade principale, qui a été modifiée avec la construction et l'ouverture de cette porte qui permet aujourd'hui de rentrer dans le sépulcre, mais qui correspond finalement à la première chambre avant la chambre funéraire, si vous voulez. On voit très nettement qu'il y a des traces d'arrachement. Il devait y avoir deux personnages en stuc qui se trouvaient ici, dont un personnage qui avait la main tendue, assez difficile d'interpréter l'ensemble. On constate quand même qu'on a une belle frise sur laquelle on voit apparaître une partie du tétramorphe. On manque une partie, on manque un surtout, mais on peut imaginer qu'il venait combler l'ensemble. Donc déjà, on ouvre cette première partie avec une première chambre avec un décor extérieur qui est assez important et dans lequel on a la représentation des quatre vivants, des quatre évangélistes qui ont tous relaté la visite au tombeau. En revanche, les choses commencent à changer un petit peu quand on arrive à l'intérieur de la chambre funéraire. Je vous rappelle, on rentre dans la première chambre, dans l'antichambre, par l'est et on va vers l'ouest. Quand on arrive dans cette première pièce, on arrive par la porte que vous distinguez ici, et en fait on est accueilli sur le côté par cette figure, tout est en stuc, hein, il n'y a rien en pierre, tout est réalisé en stuc, par cette figure d'un ange qui est assis, qui tient un phylactère, c'est une autre façon de dire qu'il est en train de parler pour l'époque médiévale, qui tient un phylactère et qui a le visage tourné donc vers l'entrée. Et lorsque l'on pénètre à l'intérieur, la première chose que l'on va voir, c'est la grande figure que vous avez ici, sur laquelle je vais revenir. Et finalement, sur le côté, vous avez ce groupe de trois femmes voilées, qui sont habillées comme des moniales, puisqu'on est chez des chanoinesses, ici, qui tiennent des pots de parfum et d'onguents, et qui tiennent aussi notre encensoir. Donc, on possède un manuscrit qui nous parle justement de la liturgie extraordinaire et du drame liturgique de Pâques, alors qui est plus tardif, hein, notre manuscrit date de 1500, mais on sait qu'il est basé sur un ordo qui est plus ancien. Et donc, sur cet ordo, on sait parfaitement comment est organisée la visitation sépulcri. Si vous voulez, je reviens juste un peu en arrière pour vous remontrer le plan, on sait que l'assemblée et dans l'église, et qu'on a nos trois femmes, en tout cas les trois moniales, qui vont partir de la galerie du cloître ici, sortir pour pénétrer à l'intérieur du sépulcre. À l'intérieur du sépulcre, il y a déjà Claire qui est à l'intérieur et qui va jouer le rôle de l'ange. Donc l'ange qui nous accueille à l'entrée, visiblement dans l'iconographie, et les trois femmes qui viennent en supplément. Et puis, dans l'axe, quand on rentre à l'intérieur, on a cette grande statue. Cette grande statue qui représente le Christ, on a tous les éléments iconographiques de la figuration du Christ, mais qui est un Christ en vêtements sacerdotal. J'ai confirmation. Qui est en vêtements sacerdotal. Donc c'est un Christ ressuscité, certes c'est le Christ du tombeau, mais c'est le Christ qui est aussi le grand prêtre, et donc qui finalement renvoie aussi à toute la liturgie, cette fois-ci eucharistique, qui va se développer par la suite. Alors, l'ordo, enfin le texte de la Visitatio Sepulchri nous dit que tout se passe dans le secret du tombeau, que la communauté n'entend rien, n'entend que simplement quelques chants d'un Zandmeisterin, c'est-à-dire une maîtresse de chant, qui va de temps en temps lancer un chant pour nous indiquer exactement à quel moment de la visitation on est. Est-ce que les femmes ont eu l'annonce? Est-ce qu'elles arrivent tout juste dans la chambre, etc., etc. Mais donc, ce que découvrent nos femmes, c'est à la fois l'annonce de l'ange avec l'ange qui est au revers de la porte, et surtout la figure du Christ ressuscité et d'un Christ sacerdotal. Si on ressort, à l'extérieur, l'autre partie qu'on n'avait pas encore vue, vous avez cette scène avec des cadres qui sont bien précis, une figure d'un Christ, alors qu'il malheureusement est un peu lacunaire, mais d'un Christ pantocrator, donc un Christ bénissant, Christ forcément image du Christ ressuscité, et vous avez surtout la scène du « ne lui mette en guerre, ne me touche pas ». Le moment où le Christ jardinier, le Christ se révèle à Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine reconnaît le Christ. Là encore, on est dans une abbaye de femmes, donc les femmes continuent à avoir le beau rôle, on ne va pas avoir d'apôtre. Et finalement, l'ensemble s'achève au revers. Avec cette représentation, vous avez l'agneau de l'Apocalypse, la figure de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, une figure de prophète sur lequel on a des interprétations diverses et variées que je vous épargne parce que sinon ça nous emmènerait trop loin. Dans un ensemble décoratif d'une frise végétalisante, zoomorphe, qui renvoie finalement à l'image du paradis et de l'Éden perdu. Et au centre, vous avez la figure d'une moniale qui est dans le geste de à la fois l'accueil et à la fois du dialogue, et qui finalement représente l'ensemble de la communauté, le reste de la communauté, auquel les trois saintes femmes viennent annoncer la résurrection, et qui se trouve, comme de par hasard, en fait, dans le dos, à l'intérieur, elle a la figure du Christ sacerdotal. Donc on a là un Saint-Sépulcre, qui est surtout Saint-Sépulcre, par, finalement, sa liturgie et son iconographie, et pas du tout par son plan. Et qui montre bien toute la valeur qu'a le Saint-Sépulcre, d'un point de vue liturgique, dans l'iconographie, comme étant un élément qui nous permet de rentrer dans le mystère de la résurrection. Et en rentrant dans ce mystère de la résurrection, qui est quand même un chouïa complexe, eh bien, par bribes, ce Saint-Sépulcre, c'est celui qui nous initie et qui, finalement, nous entr'ouvre la porte, toujours, et je reviens à ce que je disais au départ, l'ascenseur à la Jérusalem céleste. Et je m'arrête.
Donc là, pendant les vacances, j'étais allé à Bruges.
Ouais.
Et il y a notamment la chapelle du Saint-Sépulcre, mm-hmm. Donc, qui est un exemple plus tardif, genre plutôt 14e, 15e. Oui. Et parce que vous avez l'air de dire que on avait un peu perdu ça à partir de sur la représentation. Mais je voulais savoir sur l'usage de ces chapelles, là, plutôt un usage privé en l'occurrence. Oui. En public. Enfin, qu'est-ce
alors,
que
on va retrouver très nettement l'usage de ces chapelles à but liturgique va s'étioler sur la fin du Moyen-Âge, et on va retrouver une recrudescence de représentation du Saint-Sépulcre. Alors recrudescence, c'est un bien grand terme parce que ça va vraiment être assez sporadique, mais dans le cadre de chapelles familiales. On l'a à Bruges, on l'a à Görlitz, on l'a à Florence. où on a finalement des chapelles familiales qui vont prendre l'image du Saint-Sépulcre parce que ce sont des chapelles, ce sont des espaces qui sont pour la mémoire des défunts. Donc c'est la fonction funéraire qu'on avait par exemple avec Fulda et qu'on a avec d'autres exemples antérieurs. Mais c'est quelque chose qui arrive par la suite et dans lequel la fonction liturgique disparaît complètement. C'est vraiment uniquement une mémoriale.
D'accord.
Oui.
Alors moi, ma question est presque l'inverse. Moi, j'allais visiter un monastère en Alsace où il représente une Jérusalem entière avec un Golgotha, avec un chemin de croix et tout ça. Et justement, il n'y a pas de Saint-Sépulcre.
Non.
Et c'est plutôt 14e.
Oui, alors 14e et puis surtout après ça au 17e, on va avoir ce qu'on appelle en italien les sacramenti. Et dans lequel on va avoir une reproduction de la géographie de Jérusalem. Et dans lequel on va reproduire tous les lieux. Alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi, notamment dans la sculpture monumentale. Où on va avoir la multiplication de scènes de la mise au tombeau, par exemple, ou du portement de croix, de la crucifixion avec la Vierge et Saint Jean autour. Et donc de ces scènes qui vont être figurées et qui vont reformer une géographie du sacré à l'intérieur de l'espace ecclésial, ou même quand on est dans les sacramenti, dans un espace beaucoup plus large et beaucoup plus important. Et dans lequel, finalement, ça correspond aussi à des périodes à partir du 14e et du 15e siècle, dans lequel on a un changement qui s'opère d'un point de vue spirituel, notamment dans la relation au pèlerinage. On a beaucoup moins de pèlerinage à ce moment-là. On est dans une démarche qui est plutôt une démarche du pèlerinage intérieur. Et on n'a plus besoin, c'est les pères de l'Église du départ, des premiers pères de l'Église seraient ravis parce qu'ils étaient très contre les pèlerinages, mais on n'a plus besoin, on estime qu'on n'a plus besoin d'aller sur les sites eux-mêmes, mais que la figuration ou la représentation qu'on va en avoir nous permet de faire notre propre pèlerinage intérieur en nous donnant les éléments qui vont nous permettre d'identifier ce qu'on ne peut pas voir parce qu'on ne va pas sur le site lui-même. Donc ça, on en voit au 14e, beaucoup au 14e de ces grands ensembles iconographiques. On commence à avoir ces espaces sacrés et c'est beaucoup ce qu'on va retrouver surtout au 17e. Oui.
Vous avez pas mal insisté sur l'idée que le Saint-Sépulcre n'était pas un espace dédié à la liturgie eucharistique, ouais, etc. Est-ce que sur la période médiévale, on trouve des églises qui seraient dédiées au Saint-Sépulcre?
Oui, bien sûr.
D'accord.
Oui, on en trouve. Mais même le Saint-Sépulcre de Jérusalem, c'est pas un espace, et probablement à l'époque, même aux hautes époques, quand on lit Cyrille de Jérusalem, on sait qu'ils vont, on a toute une, et même quand on lit Égérie, hein, on voit qu'ils ont toute une liturgie stationnelle qui les amène, et qui finalement les amène au sépulcre, dans lequel on a une veillée, et dans lequel on peut avoir les baptêmes. Alors là, c'est pas complètement clair de savoir si les baptêmes ont lieu dans un sépulcre ou dans un baptistère qui est directement à côté, et que les néophytes, résultat, viennent à l'intérieur du Saint-Sépulcre après le baptême pour entendre leur première catéchèse. Avec Cyrille, c'est pas complètement clair. Mais on va avoir cette idée-là. Mais bien entendu, on a des églises qui sont... on a par exemple les croix de l'église Sainte-Croix de Quimperlé, qui est un Saint-Sépulcre et qui est une église dans laquelle on a un hôtel.
Oui, mais qui est dédié à la Sainte-Croix. En fait, c'était ça ma question. Est-ce qu'il y a des églises...
Oui, le sépulcre de Cambrai.
D'accord.
Okay. Et pas d'Orborne, par exemple, entre autres. Mais oui, bien entendu qu'il y en a. Généralement, ce sont des églises de taille assez imposante, beaucoup plus importante. Mais on a aussi plus, quand même, tous ces petits édicules qui vont se retrouver dans ou à proximité des églises et qui vont être dédiés à une liturgie pascale. Et sans oublier aussi, justement, dans toute la partie carolingienne, l'utilisation des parties hautes, des vestiaires, des massifs occidentaux, hein, les chapelles hautes comme vous avez à Saint-Denis. À Saint-Denis, dans la chapelle, vous avez le massif occidental, et quand on rentre, on voit bien qu'on a une chapelle haute, hein, on est beaucoup plus bas quand on rentre à l'intérieur. Et donc, on a une chapelle haute, et cette chapelle haute, alors aujourd'hui plus parce qu'il y a un orgue, mais elle ouvrait sur la nef et elle était utilisée pour les liturgies extraordinaires de ce type-là. Ça servait du sépulcre.
C'était une image. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, on se rend compte aussi, si vous prenez la liturgie du Vendredi Saint, hein, une liturgie de la croix, hein, cette liturgie, on sait qu'elle trouve sa racine dans la liturgie de Jérusalem.
Ouais.
hein, où on vénérait la croix elle-même. Ça va se transférer à Rome, je crois, à peu près au 7e siècle.
Ouais.
Et encore aujourd'hui, dans toute l'Église, ce que nous vivons le jour du Vendredi Saint, nous adorons la croix, hein, nous faisons la génuflexion ce jour-là devant la croix, parce que et c'est un jour où, de fait, nous ne célébrons pas l'Eucharistie, mais où l'événement, en fait, du sacrifice du Christ, de son offrande pour nous tous, nous est rendu présent à travers la liturgie même que nous vivons. Elle est prise dans les trois jours. Donc, il reste quelque chose notre propre liturgie, hein, de ce qui était vécu et qui n'était pas... voilà, c'est une partie des jours où on ne célèbre pas l'Eucharistie parce qu'on est pris dans le mystère pascal lui-même qui est rendu actuel.
Très atténué par rapport à ce que c'était. Mais effectivement, quand on lit la pèlerine d'Égérie, qui est une pèlerine qui est arrivée à Jérusalem au 4e siècle, elle voit le Saint-Sépulcre il y a encore des travaux sur Martyrium. Donc, c'est la première qui nous décrit, et alors elle passe un an à Jérusalem, c'est une source extrêmement précieuse parce qu'elle nous fait toutes les fêtes. On sait exactement comment se passe la liturgie de Jérusalem à cette époque-là, la première liturgie d'Hérosolimitaine, parce qu'elle nous décrit toutes les fêtes. Et quand elle revient, elle en a encore les yeux totalement émerveillés. Et notamment pour Pâques, elle nous décrit le moment où on a une adoration de la croix. Et donc on a cette adoration de la croix qui se fait dans la cour du Golgotha, donc qui n'est pas dans l'église, qui n'est pas dans le sépulcre, parce qu'on a une liturgie, ce qu'on appelle une liturgie stationnelle. On est sur les lieux, donc c'est facile. Hein, on va d'un lieu à l'autre, et notamment tout le Jeudi Saint, on commence au Mont des Oliviers, on redescend vers Jérusalem et vers la basilique du Martyrium, on a un premier office, et puis on circule à l'intérieur, et à chaque fois, pendant tout le Triduum pascal, on va aller comme ça d'un lieu à l'autre, comme nous décrit Égérie, et dont on retrouve des traces encore aujourd'hui dans la liturgie de Pâques. Mais que des traces, malheureusement.
Oui, et en fait, ça, ce qui est intéressant, c'est que via la liturgie qui a été reprise à Rome, finalement, c'est l'ensemble de l'Église, c'est l'universalité de l'Église qui, au moment du Triduum pascal, vit quelque chose de la liturgie stationnelle de Jérusalem, qui nous est donnée à tous de vivre et qui nous rend l'événement présent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un peu distinct de la célébration eucharistique du Triduum, c'est la célébration du Jeudi Saint, qui va ensuite être qui est l'anticipation du sacrifice du Christ, et ensuite on va être devant le sacrifice lui-même au Vendredi Saint, au Samedi Saint, il ne se passe rien, et le dimanche, là, effectivement, on célèbre la résurrection avec l'Eucharistie. Mais c'est vraiment, on vit ces jours dans une manière de nous rendre présents à l'événement qui n'est jamais passé.
Et même c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on a quand même certaines églises qui font une liturgie dans laquelle la déposition du pain consacré ne se fait pas forcément dans le tabernacle habituel, mais on consacre un autre lieu, ce qui permet à l'Eucharistie de circuler dans l'église pour arriver dans un lieu qui va être pour ce temps-là, considéré comme le sépulcre, et qui va apparaître comme vide par la suite. Dans certaines paroisses, on a cette idée-là qui est redonnée. Mais quoi qu'il arrive, il faut quand même bien penser que le tabernacle se développe à partir du XIIIe siècle en tant qu'objet, mais le tabernacle est en réalité un Saint-Sépulcre. En soi, c'est un Saint-Sépulcre. L'idée du tabernacle, la fonction et la façon dont on décrit le tabernacle comme objet liturgique au XIIIe siècle, c'est un Saint-Sépulcre. Parce qu'il reçoit et il conserve le corps du Christ. Et il est laissé vide pour la résurrection. Donc c'est un Saint-Sépulcre.
Ouais. J'ai une question un peu étrange.
J'aime les questions étranges.
En fait, vous avez... Enfin, le sentiment que j'avais, c'est que le fait de représenter... Enfin, de penser la résurrection en représentant d'abord le Saint-Sépulcre, c'est très lié au fait d'associer descendre la Jérusalem terrestre, la Jérusalem céleste. On voit que le Saint-Sépulcre devient presque une métonymie de Jérusalem.
Oui, les deux. Les Jérusalem.
Est-ce que le fait de passer à une représentation de la résurrection qui est beaucoup plus focalisée sur la personne du Christ, sur ce qu'il y a autour, en arrière-plan, ça n'a pas concouru, tout en iconographie ou même enfin, en termes de spirituel, à faire que on peut avoir du salut une dimension qui est un peu plus individualiste, alors que
je vois ce que vous voulez dire, c'est pas exactement ça, on va pas le définir exactement comme ça, en fait on va plutôt le définir d'une façon, d'une vision polyenne à une vision joannique. c'est la représentation change parce que ce n'est pas vers une individualisation. Finalement, on va le voir dans la spiritualité, d'un point de vue, dans l'évolution de la spiritualité à l'époque médiévale, c'est plutôt au XIVe ou au XVe siècle qu'on va vraiment avoir une individualisation. C'est vrai qu'au XIIIe, on commence à... Je dirais plutôt que c'est l'effet inverse. En fait, au XIIIe siècle, avant le XIIIe siècle, je vais faire des choses extrêmement schématiques. Hein. On va dire que XIe, XIIe siècle, le salut, c'est l'affaire des moines. Les moines, ils sont là pour prier pour le salut de tous. Ça ne veut pas dire que les autres ne prient pas. Mais le boulot des moines, c'est prier pour le salut. À partir du XIIIe siècle, on commence à voir, alors il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, bien entendu, mais à partir du XIIIe siècle, on commence à entendre que le salut, c'est pas que l'affaire des moines, c'est l'affaire de tous. Donc au contraire, quelque chose de plus global. Et en revanche, ce qui est très net dans l'iconographie, c'est qu'on insiste sur le corps souffrant du Christ, parce que la souffrance, et finalement la souffrance qu'on peut connaître à ce moment-là, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments, notamment au XIVe, qui vont arriver, et auxquels la souffrance va être magnifiée dans une certaine mesure, mais la souffrance que nous, on ressent sur Terre, n'est que l'écho lointain de la souffrance du Christ, et donc à travers l'image et l'ouverture vers la résurrection et vers le corps glorieux qui nous attend derrière. Mais justement, à partir du XIIIe siècle, ce n'est plus l'affaire que des moines et de ceux qui prient, c'est l'affaire de tous. À partir du XVe siècle, ça devient une affaire un peu plus personnelle.
Merci beaucoup pour cette réponse. En fait, j'avais pas pensé à cette discussion, mais c'est très intéressant, mais... En fait, c'est plutôt dans l'idée que, avant de représenter uniquement le corps du Christ, quand on pense le salut, on pense directement, non pas je serai sauvé, mais on sera sauvé. Enfin, en gros, la Jérusalem céleste, l'aspect communautaire de la chose, vous voyez.
Ah oui, mais là, vous partez sur des choses qui sont très complexes, parce que. Ça ne dérange pas. Hein. En fait, il faut bien penser que. Il y a quand même un interdit vétérotestamentaire qui, sur la première iconographie chrétienne, pèse encore. On va pas rentrer dans un détail, mais je caricature, j'en suis bien consciente. Notamment pour représenter le Christ sur la croix, on va pas l'avoir tout de suite. On a des croix, très vite, ok. Mais le Christ sur la croix, ça va prendre plus de temps. Et on pose la question quand même beaucoup de qu'est-ce qu'on peut représenter, qu'est-ce qu'on ne peut pas représenter. En fait, la façon dont vous voyez les choses, vous calquez une vision qui est quand même d'une économie du salut, qui est quand même encore aujourd'hui, qui est très contemporaine, sur une pensée qui n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que votre économie du salut sur le jeu... et sur le fait que la représentation du Christ souffrant soit finalement un retour sur l'individualité par rapport à l'Ecclésia, par rapport à l'Assemblée,
ou peut-être la chose qui fait qu'à un moment on arrive à penser plutôt l'individualité que l'Ecclésia. Je dis pas que, en fait...
Là, je pense que vous prenez les choses à l'envers. Ouais. Vous prenez la conséquence comme étant la cause. Si je vous dis ça arrive au XIVe et XVe siècle, il faut quand même penser qu'au XIVe siècle, on a la peste, et que la peste redistribue les choses et la façon dont on va voir et dont on va réfléchir le salut. Et le salut global et le salut individuel. Et c'est vrai qu'on va très nettement réfléchir à partir du XVe siècle, on voit dans la spiritualité une réflexion sur son salut personnel, qui n'est plus un salut commun. Alors qu'au XIIe et au XIIIe siècle, donc au moment où on est... le salut, c'est l'affaire de tous, et pas pour moi, mais pour la société. Et donc, c'est plutôt une évolution qui va avoir lieu dans la société, qui va se ressentir dans l'iconographie. Je ne suis pas sûre d'être très claire, mais qui va plutôt apparaître dans l'iconographie.
Mais là où je vois le point d'Inès, alors c'est... un peu indépendamment de la question historique, mais alors je ne sais pas du tout si je suis fidèle à ce que tu dis, mais je trouve en fait que le côté avec une liturgie qui fait une liturgie des femmes qui vont recevoir l'annonce de la résurrection et puis qui ensuite vont la manifester aux autres, ça induit pas du tout la même.
Ah ben non, mais
compréhension d'ensemble, c'est-à-dire que ça implique en fait tout un ensemble de facteurs, une annonce mutuelle qui vient faire du salut en fait quelque chose qui est annoncé de manière effectivement en fait ecclésienne, et de ce point de vue-là, en fait, les saintes femmes jouent ce rôle-là.
Ah, mais je
alors que dans des liturgies qui vont être plus centrées sur ma relation au ressuscité, alors en fait, et c'est vrai que pour moi c'est un des enjeux contemporains. Alors, c'est là pour ça que c'est assez contemporain, que notre question elle est contemporaine à partir de ce qu'on a vu ce soir. Mais c'est un peu qu'il y a un enjeu aussi qu'on réussisse à ré-ecclésialiser notre idée du salut. Et je trouve que là-dessus, ces liturgies sont. Enfin, moi, c'est ce que je me disais, pareil, enfin, à ta conférence, et je me disais, ah, mais en fait, c'est incroyablement parlant sur la manière en fait, de vivre cette liturgie-là.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord. On a un changement.
Mais après, je ne dis pas que c'est ça historiquement.
Non,
en revanche, ça nous envoie une image.
Ça nous envoie une image. Mais pour voir le passage, très nettement, on le sent chez les penseurs de l'époque. Hein, quand on va lire toute la dispute justement sur la transsubstantiation, etc., c'est très intéressant de voir cette vision paulinienne et cette vision johannique qui sont à la fois complémentaires et qui finalement sont un peu mises en opposition. Ça correspond aussi d'un point de vue historique à un moment où on a besoin, où il y a une recherche aussi de matérialité. On a besoin, le tombeau vide.
Mais ça, je
suis d'accord, mais je comprends bien ce que tu veux. Tu le replaces, moi je le remets d'un point de vue historique et toi tu le remets d'un point de vue liturgique. C'est bon, alors.
J'avais l'impression que finalement c'était ça le point d'Inès, c'est de dire en fait qu'il y avait une manifestation liturgique de la résurrection qui avait quelque chose de beaucoup plus communautaire dans sa théâtralisation.
La liturgique, regardez, chez les Orientaux, je pense à. Ou c'est une dissent, mais en fait, je crois que les maïtites font ça, on va chercher, les gens suivent en cortège une sorte de figuration du tombeau du Christ, et en fait, il y a un joudiel derrière dans l'église, puis on fait sortir
les gens. En même temps, je ne sais pas.
La liturgie, les trames liturgiques de Pâques disparaissent à la fin du Moyen-Âge. Les drames liturgiques de Pâques naissent vers le 9e siècle, connaissent leur vrai développement. Les manuscrits les plus anciens qu'on connaisse qui parlent de liturgie, de drames liturgiques datent du 10e siècle. C'est un manuscrit anglais, c'est le manuscrit de Winchester. Et les derniers, vous voyez, Gamrod, c'est un lectionnaire, c'est un manuscrit liturgique qui date de 1500. Et qui prend un ordo plus ancien, mais ça disparaît à la fin du Moyen-Âge. Parce que y a aussi, ce qu'on arrive dans des périodes qui manquent totalement de civilité et qui deviennent totalement barbares, à savoir la Renaissance, et dans lequel on a notamment un rejet, mais en tout cas on regarde ces extériorisations liturgiques comme étant dangereuse. Parce que finalement, c'est ce qu'on voit dans certains textes, cette extériorisation finalement du phénomène liturgique. Alors d'abord, il faut bien se rendre compte que les drames liturgiques, c'est pas partout. Hein. C'est quand même dans des communautés monastiques, ça peut être dans des offices cathédrales parce qu'on a des chanoines, c'est pas dans toutes les églises, déjà. Mais on s'aperçoit au XVIe, au XVIIe siècle que cette extériorisation du moyen liturgique, elle est vue comme dangereuse, parce que comme étant un spectacle, et non plus comme étant justement un lieu de recueillement. La réforme protestante a forcément une incidence. Hein. Et quand on voit le Concile de Trente, la contre-réforme, quand on regarde la contre-réforme, alors, au niveau des arts, elle se lâche, ça explose en couleurs, en formes, etc., etc. Mais on s'aperçoit quand même dans la liturgie, certain nombre de critiques qui avaient été montées par le protestantisme, alors on plutôt mourir que d'avouer qu'on en a pris compte, mais on en a quand même pris compte.
Dans la liturgie. sujet à cause du protestantisme.